puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radioscope 107.
Bonjour, aujourd'hui dans La Puce à l'oreille, entretien avec Bruno Duverger, député de la première circonscription du Pas-de-Calais à l'occasion du bilan de mi-mandat du député, enregistrement réalisé jeudi 13 février à la permanence du député. Monsieur le député Bruno Duverger, bonjour.
Bonjour.
On se rencontre ici à votre permanence à Hervillers pour un point presque vous donner, arrivé à mi-mandat, 2 ans et demi, ça passe vite.
Oui, ça passe très vite. Et c'est pour ça que c'était très important de faire ce bilan, pour regarder un petit peu tout ce qui avait été fait, à la fois pour l'équipe, pour la circonscription, la population, il fallait lui relater tout ce qui avait été fait, et aussi pour moi, parce que quand on est dans l'action, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui est fait.
Quand on est député MoDem, on est député En Marche ?
Quand on est député MoDem, on est député de la majorité, sans aucun doute, avec nos spécificités. Et nos spécificités, c'est lié à notre histoire. Être centriste, on l'est depuis tout le temps. Faire avec les meilleures idées de la droite et de la gauche, on a toujours voulu le faire. Et donc, on se retrouve très bien dans cette majorité. On a nos spécificités parce qu'on est peut-être aussi un groupe plus ancré sur le terrain. Avec un peu plus de vécu. Et aujourd'hui, je pense que dans les moments difficiles, ça se sent.
Alors, on va parler de votre action sur ces 2 ans et demi, mais on ne peut pas la déconnecter finalement de l'action gouvernementale quand on est député du groupe majoritaire.
Oui, complètement. Hein. De toute façon, on a été élu sur un programme. Et donc, notre mission, c'est de s'assurer que ce programme est déployé. Au fur et à mesure que les différentes lois sont proposées par les ministres, c'est à nous de défendre ces lois qui correspondent au programme du président de la République, mais aussi de s'assurer qu'elles correspondent à ce dont on a besoin sur le terrain et qu'elles sont toujours conformes à ce que le président avait promis.
Alors, votre circonscription, première circonscription du Pas-de-Calais, 294 communes, près de 137 000 habitants, un espace rural qui a eu une influence sur votre investissement dans des commissions bien précises.
Ah, complètement. Je pense que c'est là l'essentiel, en fait, de mon action, c'est de prendre sur le terrain, faire un état des besoins, de comprendre l'état d'esprit du terrain et d'aller à l'Assemblée pour discuter les sujets qui peuvent être le mieux connectés au territoire. Mon premier choix, c'était de choisir la commission développement durable et aménagement du territoire. Je l'avais choisi d'abord pour aménagement du territoire. Avec l'expérience, je me suis rendu compte que ce n'était pas la première des priorités de cette commission, la première des priorités étant le développement durable. Ce qui s'est passé, c'est que, comme tout nouveau député, au départ, on veut avoir un avis sur tout. Et donc, on va de discussion en discussion. Et malheureusement, la frustration arrive rapidement parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. Et donc, au bout de 6 mois, je me suis plus focalisé. Et je me suis focalisé sur la transition énergétique qui correspond bien aux besoins du territoire.
On va quand même parler un peu d'équipement du territoire et de l'aménagement du territoire. La première douche froide ressentie sur le territoire concernait le canal Seine-Nord-Europe, alors que l'ancien président avait dit, Monsieur Hollande, allez, on y va, ça va. Arrivé en décision, le gouvernement a dit, oh là, on va pas aussi vite que ça. On a l'impression aujourd'hui que sans la mobilisation de la région et des départements, le canal Seine-Nord-Europe, il n'aurait pas finalement vu le jour parce que on avait quand même senti une certaine réticence. Et du reste, ça n'a été signé et officialisé par le président qu'en novembre 2019, très 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 récemment, on a pris 2 ans de retard sur le projet.
Je suis assez d'accord avec ça. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est une grande mobilisation des élus locaux. Bien sûr, région, département, mais les maires, les conseillers départementaux, et puis nous, députés. Et là, ça va au-delà de la majorité, puisque quelqu'un qui est très engagé sur le canal depuis tout le temps, c'est Stéphane Demilly, et qui a créé au sein de l'Assemblée, mais même au Parlement, puisqu'il a fait un groupe interparlementaire, je ne sais pas si on dit ça, parlementaire en tout cas, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, qui a été très suivie, Guy Bricot aussi, mon collègue du Nord. Donc on a beaucoup travaillé ensemble sur le sujet, beaucoup mobilisé. Moi je dirais que si on regarde bien l'histoire, chaque président veut faire avancer le canal Seine-Nord, et à chaque fois qu'il y a un changement donc, de président, moi mon analyse c'est que certains aux fonctionnaires veulent reprendre la main, des hauts fonctionnaires qui ne sont pas d'accord avec cet investissement, et il faut à chaque fois retravailler pour remettre la décision, pour être sûr que la décision est bien entérinée. Donc, à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Bon, grâce à notre mobilisation, mais aussi à la volonté du président de la République, on y est arrivé.
2028, on pourra naviguer sur le canal ?
Oui, en 2028, on pourra naviguer sur le canal, en tout cas, c'est ce que j'espère. Le canal, c'est 4 sections. Il va y avoir cette année des travaux sur la première section, qui est en fait l'aménagement de l'Oise. Et ensuite, on démarrera les travaux en 2023, parce qu'il faut faire toutes les études détaillées.
Cette commission aménagement du territoire et transition écologique, donc on va parler également de ce volet. Vous prenez la diminution des énergies fossiles, vous souhaitez la promotion d'autres types d'énergie, l'éolien, là vous n'êtes pas d'accord avec le président de région, le solaire qui peut également avoir sa place même en Hauts-de-France et sur cette circonscription, l'hydrogène, et là vous pouvez avoir des convergences avec la CGT Énergie qui également promeut cette filière, notamment pour les poids lourds et les transports en commun. Et puis la biomasse, et là on va être en relation avec le monde agricole. Et vous avez été à l'initiative et le rapporteur d'un projet pour plus parler de finalement comment on fait pour faire accepter l'idée de cette transition aux habitants. Il y a toujours des réticences, il y a des craintes.
Oui, il y a des réticences l'essentiel de mon rapport, c'est de bien montrer qu'on a besoin de tout, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'éolien, on a besoin du solaire, on a besoin de la biomasse, on a besoin de l'hydrogène, mais l'hydrogène n'est pas une énergie, c'est un vecteur d'énergie, et c'est comme l'électricité, ce n'est pas une énergie, c'est un vecteur d'énergie. Pour que l'hydrogène se développe, il faut qu'on ait plus d'énergie décarbonée. Donc peut-être maintenir le nucléaire, mais développer l'éolien et le solaire. Alors en ce qui concerne la position du président de la région, finalement quand on discute, on n'est pas si loin que ça. Bien sûr qu'il a une position tranchée en disant stop à l'éolien, mais dans les Hauts-de-France. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les Hauts-de-France, c'est la première région productrice d'énergie éolienne. De temps en temps, je regarde l'appli RTE qui nous donne en temps réel la part de chaque énergie dans la production d'électricité pour les Hauts-de-France. On est aujourd'hui à 30-40% d'énergie qui vient de l'éolien dans les Hauts-de-France. Là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'on arrive à une limite qui est difficilement supportable par la population dans notre région, sur notre territoire. Oui, je prends le développement d'éolien, mais qu'il soit planifié, comme on l'avait fait un peu il y a 8 ou 9 ans. On avait les zones de développement éolien, et donc collectivement, on regardait là où il y avait du vent, là où on pouvait mettre des éoliennes, quel impact ça avait sur le paysage et l'environnement, et après on prenait des décisions. Donc ça, il faut continuer à le faire, et surtout, il faut que les autres régions s'y mettent.
Pourquoi un député doit proposer un rapport, lancer l'étude, alors que normalement c'est déjà le travail de l'ADEME que de faire ça? Il y a l'agence qui existe, ça a été complémentaire, ça a amené une autre vision, une autre portée à votre travail?
Oui, complètement. L'ADEME a été grande contributrice sur ce rapport, puisque j'ai dû l'auditionner sur 4, 5 ou 6 thèmes, je ne sais plus exactement. On a beaucoup travaillé ensemble sur le sujet. L'avantage que ce soit un député qui fasse un tel rapport, je dirais, même si c'était un sujet d'intérêt pour moi, je ne suis pas un spécialiste de la question. Donc automatiquement, j'ai une tendance à vulgariser le sujet, à le rendre plus accessible à tout le monde, à poser des questions peut-être qui ne se sont jamais posées, parce que ceux qui sont tous les jours le nez dans le guidon ne voient plus forcément la grande image. Et franchement, aujourd'hui, je fais des conférences sur le sujet. La première question que je pose à l'Assemblée avant de démarrer, c'est quelle est la part du nucléaire dans l'énergie que nous consommons ? Systématiquement, les gens répondent 70%. Systématiquement. Donc, et aujourd'hui, en fait, c'est 18%. Pourquoi ? Parce que les gens, on leur a martelé la part de l'énergie dans l'électricité. Et donc, ils n'ont pas une bonne représentation de notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, 66% de notre énergie vient des énergies fossiles. Et donc, ça veut dire que les gens n'ont pas ça en tête. Et le fait de faire un rapport comme ça, ça donne une vision d'ensemble qui permet de dire aux gens, voilà, qu'est-ce qu'on consomme et pourquoi faire.
Sortir des énergies fossiles, la biomasse, la méthanisation et notamment la méthanisation agricole. Sur votre circonscription, première circonscription du Pas-de-Calais, vous avez été confronté à des porteurs de projets et à des associations opposées à ces projets parce que nuisance ou crainte de nuisance. Il a fallu être entre le marteau et l'enclume à ce moment-là. C'est quoi le rôle du député ?
Oui, il faut être entre le marteau et l'enclume parce que des deux côtés, il y a des dérives. Déjà, je me mets du côté des agriculteurs, moi, ce que je leur dis. Déjà, aujourd'hui, si on prend la France, l'ADEME a estimé que le potentiel de la biomasse sans utiliser de terres agricoles alimentaires, je le dis bien, est de 350 TWh. Ça veut dire quoi ? L'électricité totale consommée en France, c'est 470 TWh. Donc ça veut dire que c'est quand même très significatif ce que l'on peut faire avec la biomasse aujourd'hui. Donc il faut savoir où elle est, il faut savoir l'exploiter et il faut le faire de façon raisonnée. Il y a le département du Maine-et-Loire qui a fait un travail en essayant d'estimer quelle était la biomasse présente sur le territoire. Ils ont estimé qu'il fallait à peu près, je ne sais plus si c'est 39 ou 49 méthaniseurs sur le Maine-et-Loire, ce qui veut dire un méthaniseur tous les 12 ou 13 kilomètres. Voilà, une approche comme ça, ça permet de rationaliser, de rassurer aussi, puisqu'on ne va pas aller utiliser des terres alimentaires pour alimenter le méthaniseur. Ça veut dire qu'on n'en met pas, on choisit les endroits où on les met. Donc voilà, il faut un côté rationnel du côté des producteurs d'énergie. Du côté de la population, il faut aussi aller voir les exemples qui fonctionnent, enfin, tous les exemples que l'on a. Et aujourd'hui, on a des méthaniseurs qui sont quasiment dans des villages dans le Nord. Et il n'y a pas de souci. Il faut apprendre à vivre dans ce nouveau monde où l'énergie, on la produit plus proche de nous.
Est-ce que c'est le monde agricole qui a eu raison du ministre de l'Environnement, M. Hulot ?
Ah tiens, voilà une question que je n'ai jamais posée. Je ne me suis jamais posée dans ce sens-là. Pourquoi Nicolas Hulot est parti ? Entre être un militant et être ministre, la grande différence, c'est que on est obligé de prendre en compte toute la réalité de la situation et il faut savoir trouver le chemin entre le point A et le point B. On ne peut pas seulement viser le but final, il faut savoir comment on y va et comment on emmène tout le monde. Et c'est peut-être là où Nicolas Hulot a eu du mal.
Et toujours en question avec l'énergie, parce que ça aussi, vous avez dû le vivre sur votre circonscription, vous arrivez en responsabilité, décision qui met le feu aux poudres et qui génère le mouvement des gilets jaunes. Et comment vous l'avez vécu, ça ? C'était l'annonce de l'arrivée de la taxe sur les carburants pour financer cette transition écologique. On s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas et qu'il y avait un rejet parce que peut-être ce n'était pas le bon moment ou mal expliqué. Comment vous l'avez vécu ? Est-ce que c'est une crise de la démocratie finalement qui s'est déroulée là, à ce moment-là ? Les gens n'ont plus confiance, sont inquiets, se demandent où on va.
Et je pense que il n'y a pas assez d'accompagnement, il n'y a pas assez. Quand on prend, de toute façon, je pense qu'il y aura une courbe d'augmentation des taxes sur les énergies fossiles, mais il faut en face qu'on ait des solutions. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas forcément suffisamment avancé sur les véhicules électriques, les véhicules hydrogène, les moteurs utilisant des biocarburants, et donc on n'a pas de solution suffisamment. Il y en a, mais pas suffisamment et pas accessible financièrement. Et donc, tant qu'on est là-dessus, c'est compliqué.
Sur ce terme de transition, justement, si on ramène à votre circonscription, vous n'avez pas l'impression d'être un peu à la traîne par rapport à d'autres territoires, déjà peut-être plus investis, notamment dans des projets régionaux tels que REF3, tels que l'installation de bornes électriques sur le territoire qu'on va se développer. Sur la zone rurale, c'est beaucoup plus compliqué.
Je ne suis pas convaincu. Hein. Déjà, en termes de production d'énergie renouvelable, je pense qu'on commence à être très, très bien placé. Je veux dire, quand on voit le nombre d'éoliennes, quand on voit le nombre de méthaniseurs qui sont en train de se mettre en place, c'est bien. Après, il y a des initiatives ici et là pour faire du covoiturage, des aires de covoiturage. On a des initiatives, on a été inauguré à Veynes-le-Comte, des bornes électriques et des véhicules électriques pour la communauté de communes des campagnes de l'Artois. Ternois-Com s'investit dans le REF3, ils ont des initiatives dessus. Donc c'est vrai que c'est pas encore dans les usages, on est à la traîne. Dans la production, on n'y est pas du tout. On est plutôt, je pense que le territoire, il doit être positif d'un point de vue énergie renouvelable. Si on faisait le compte, et d'ailleurs c'est une initiative que j'aimerais, j'essaie de tester quelques com pour voir si on pourrait travailler là-dessus ou PETR des Ternois comme cette vallée pour voir si on peut travailler sur mesurer la production d'énergie renouvelable et la consommation en termes d'énergie fossile. Je pense qu'on est plus avancé qu'on ne croit, mais il y a encore des usages, beaucoup d'usages à développer et dans la mobilité. Là où je suis très en colère en ce moment, c'est avec la SNCF, parce que on a trois lignes sur la circonscription. Donc la ligne qui vient d'Amiens, Arras, qui va à Lille, donc Amiens-Arras, ensuite Arras-Douai, et puis Arras-Saint-Paul et Étaples. Donc ça fait, je crois, 12 ou 13 gares sur la circo, donc des petites gares. Mais c'est de ces gares-là dont on a besoin pour donner une alternative au diesel. Et on a des gares qui fonctionnent bien. Hachette-le-Grand fonctionne très bien. C'est 50, 100, 150 usagers tous les jours qui prennent le train pour aller travailler soit à Amiens, soit à Lille. Et donc, il y a eu la réorganisation de SNCF, que le directeur régional m'a expliqué en détail. Sur le papier, je suis prêt à accepter sa proposition parce qu'elle a les bons objectifs, mais la réalité, après un mois de fonctionnement, c'est catastrophique.
Qu'est-ce qui se passe exactement ?
En fait, ils ont voulu mettre en place plus un réseau que des lignes, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle des hubs, Arras étant un hub, et donc focaliser à Arras des correspondances, c'est-à-dire que si on est à Hachette-le-Grand, qu'on veut aller à Lille, il faut, dans le premier plan, il fallait systématiquement faire un changement à Arras. Ce que les gens ont du mal à acheter comme idée, puisqu'ils n'ont pas confiance dans les horaires, et donc ils vont avoir tendance à prendre leur voiture pour aller ici du sud d'Arras, vers Arras en voiture, encombrer Arras, et gaspiller du gasoil pour aller avant de prendre le train pour Lille. Donc de cette discussion, où j'ai engagé Xavier Bertrand aussi, où il est venu à Hachette-le-Grand, on a réussi à faire rétablir, dans un premier temps, une ligne où il n'y a pas de changement à Arras pour aller donc d'Hachette-le-Grand jusqu'à Lille le matin. Et il y en aura une autre pour revenir de Lille le soir au mois d'avril. Mais, je veux dire, ce n'est pas gagné.
Le responsable, c'est qui ? Le décisionnaire, c'est la SNCF ou c'est la région quand on parle de transport régional ?
C'est la région. C'est la région. Mais pour avoir travaillé à côté de Xavier Bertrand sur ce sujet-là, je vois bien que ce n'est pas si simple que ça, puisque les techniciens, les forces pensantes, en fait, sont à la SNCF, SNCF Mobilité. Et aujourd'hui, quand je pose des questions, c'est la SNCF qui me répond, ce n'est pas la région qui me répond. Il n'y a pas suffisamment de techniciens à la région pour donner des réponses à ça. Donc, il faut travailler directement avec la SNCF, à mon avis.
La question des mobilités, justement, sur cette circonscription rurale, on le rappelle, hein, beaucoup de villages, 294 communes, c'est une des priorités.
Oui, je pense que c'est une priorité. Et il y a aujourd'hui des initiatives dans le Terre-Noire où ils sont en train de réfléchir à des hubs de mobilité. Et ça, c'est une excellente initiative. Alors, il faut que j'aille les revoir. Ils m'ont présenté ça il y a 6 ou 9 mois. Je ne sais pas où ils en sont. Mais l'idée était de bien coordonner tout. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des lignes de bus qui n'ont pas des arrêts qui correspondent, ou même physiquement, qui sont pas, les arrêts ne correspondent pas physiquement. Donc, c'est de mettre au même endroit à la fois des bus qui ont des arrêts qui correspondent, des aires de covoiturage, des bornes de recharge électrique, des garages à vélo, etc., au même endroit pour que tout ça puisse s'organiser, y compris avec les gares SNCF. Hein.
Bruno Duverger, député MODEM de la première circonscription du Pas-de-Calais, à l'occasion de son bilan de mi-mandat. La suite de cet entretien dans un instant pour, entre autres, évoquer la réforme du système des retraites, la fermeture des classes dans les collèges de la circonscription, le projet de loi PMA ou encore l'égalité homme-femme. Et ce sera juste après Roméo Elvis.
Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille.
Posé dans un canap roule hashish, télé full HD, tout le monde est assis. Je regarde la télé, je me rends compte que la vie s'affile. Un jour j'aurai des gosses, faudra protéger ma fille. Ma soeur a mis sa voix sur la prod, ça me calme. Papa écoute le son avec le sourire. Maman écoute le son avec le casque et le mal s'évapore. Qu'on allait se lâcher tout en laissant faire ce qu'on voulait pourtant cacher. Chérie, s'il fallait se taire, alors j'ai vraiment tout caché. J'aimerais que tu sais. À mes propositions, éloignons-nous d'ici. Prends ça comme une mission, devenons invisibles. Je lui ai dit à tout à l'heure, elle a pris ça comme un missile. J'écris des chansons sur des histoires inexistantes. Certaines arrivent à se reconnaître quand je parle cœur. J'ai un peu morflé, ma vie sentimentale est mortière quand j'ai décidé de la poser sur morale. Hey, yeah, yeah. La vie est douce, la pente est raide et parfois glissante. Certaines arrivent à s'élever comme de la vapeur. J'ai un peu morflé, mais pas de quoi en faire un film. J'suis dégoûté, mais très loin d'être anéanti. J'ai vu dans ma tête qu'on allait se fâcher, qu'on allait se lâcher tout en laissant faire ce qu'on voulait pourtant cacher. Chérie, s'il fallait se taire, alors j'ai vraiment tout gâché. Proposition, éloignons-nous d'ici. Prends ça comme une mission, devenons invisibles. Je lui ai dit à tout à l'heure, elle a pris ça comme un missile. Ça n'en vaut pas la peine, il faudra se faire. Ça n'en vaut pas la peine, il faudra se faire. Ça n'en vaut pas la peine, il faudra se faire. Ça n'en vaut pas la peine. Non, il faudra se faire. Ça ne vaut pas la peine. Il faudra se faire. Ça ne vaut pas la peine. Non, il faudra se faire. Ça ne vaut pas la peine.
Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Aujourd'hui, entretien avec Bruno Duverger, député MODEM de la première circonscription du Pas-de-Calais, à l'occasion de son bilan de mi-mandat. Entretien enregistré le jeudi 13 février à la permanence du député.
Pourquoi les pompiers sont toujours en colère?
Pourquoi?
C'est la faute à qui? C'est la faute au département? C'est la faute à l'État? C'est la faute à qui? Et quelle est votre action? Parce que vous êtes investi également sur la question de la défense et de la sécurité civile.
Alors justement, ça permet d'abord de préciser que j'ai changé de commission au 1er octobre et que je suis passé de la commission du développement durable à la commission des finances. Avec pour objectif de continuer le travail que j'avais commencé au développement durable sur la transition énergétique, parce que maintenant il faut voir les aspects fiscaux, budgétaires, etc. de la transition énergétique. Donc je suis maintenant à la commission finance. Et au sein de la commission finance, on m'a aussi donné cette responsabilité d'être rapporteur sur la sécurité civile. Donc ça comprend évidemment les moyens nationaux, les Canadair, les hélicoptères Dragon, etc., mais aussi la coordination de tous les SDIS, hein, les centres de secours d'intervention des départements. Et donc ça me permet de passer du temps avec les pompiers et de mieux comprendre. Je pense que le premier problème, c'est un manque de reconnaissance. Et deuxièmement, on les utilise pour... ce qui ne sont pas, ils n'ont pas été. Enfin, quand on est pompier pour aller éteindre le feu et secourir les gens dans les accidents. On n'est pas pompier pour faire le taxi entre un village et les urgences juste pour aller faire une visite médicale. Et aujourd'hui, c'est un peu ça la dérive. Aujourd'hui, il n'y a aucune. Enfin, je veux dire, le nombre d'interventions pour les feux, le nombre d'interventions pour les accidents de la route est stable. Par contre, ce qui augmente de façon incroyable, ce sont les petites interventions pour deux fois rien.
Et ça, pour deux fois rien, c'est parfois de la détresse sociale également.
On est d'accord, on est complètement d'accord. C'est-à-dire que, en fait, les pompiers sont là pour pallier au manque de médecins, au manque d'ambulances pour amener aux urgences, etc. Et ça, c'est vrai, ça, c'est la réalité. Par contre, eux, comment ils le ressentent, c'est qu'on les utilise pour ce qu'ils ne sont pas. Et ça joue sur leur morale. Et quand je discute avec eux, donc bien sûr, on parle de prime de risque. Il faut remettre peut-être la prime de risque au même niveau que, ou à un niveau proche des policiers et des gendarmes. Mais ce qu'ils me disent, c'est moins une question d'argent qu'une question de reconnaissance sur ce qu'ils font, sur leur boulot et ce pourquoi ils ont été embauchés.
Jusqu'à quel âge on peut exercer la profession de pompier? Vous la voyez arriver, celle-là, on va quand même parler des retraites, parce que les pompiers ont une négociation. Votre avis général sur cette réforme, cette refonte profonde, hein, du système de retraite?
Bon, moi je pense que c'est le système qu'il faut, c'est-à-dire qu'un système à point, un seul système universel à point qui permet d'être plus juste. Et là, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à se faire comprendre sur ce sujet-là. J'ai plusieurs exemples. L'autre jour, je discute avec une personne qui m'interpelle dans une commémoration. Elle dit, Monsieur Duverger, c'est pas compliqué. Quand on regarde le système à points par rapport au système aujourd'hui des 25 meilleures années, il est facile de comprendre que prendre en compte toute la carrière, c'est moins avantageux que de prendre en compte les 25 meilleures années. Oui. Mais les 25 meilleures années sont surtout profitables pour ceux qui ont des salaires qui croissent toute leur carrière. Pour les gens qui ont un SMIC ou des faibles salaires pendant toute leur carrière, le système est beaucoup plus avantageux qu'aujourd'hui. Et avec aussi des règles comme le minimum retraite, qui n'est pas minimum vieillesse. Donc le système est beaucoup plus juste aujourd'hui pour les gens les plus défavorisés, pour les femmes. Ce qu'on veut faire, nous, au Modem, il y a deux sujets sur lesquels on insiste lourdement, et ça vient avec votre question sur les pompiers, c'est la pénibilité. Ça, c'est un sujet que nous, Modem, on porte très fort, parce qu'il faut identifier les métiers qui sont plus difficiles que les autres.
Justement, on va prendre un exemple de métier. Vous avez rencontré des assistantes de vie à domicile, des personnes qui interviennent auprès des personnes âgées, des femmes essentiellement, qui travaillent un temps partiel, qui doivent se déplacer, qui font un métier extrêmement physique. Ça aussi, elles doivent intégrer le cadre des métiers reconnus comme pénibles aujourd'hui.
Oui, moi je crois. Mais ce qu'il faut, c'est prendre métier par métier et pas corporation par corporation. Je m'explique. C'est-à-dire que je viens au système RATP, SNCF, etc. Dans la RATP, dans la SNCF, chez les aides à domicile, chez les pompiers, on a des postes, des métiers qui sont pénibles, et c'est cela qu'il faut reconnaître et pour lesquels on doit donner des points supplémentaires. Ce n'est pas toute la corporation qui doit avoir un système spécifique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment métier par métier qu'il faut reconnaître cette pénibilité.
Des accords de branche qui doivent à ce moment-là être négociés ?
Oui, mais métier par métier, pas pour toute la corporation.
C'est encore possible aujourd'hui, après la réforme du Code du travail, justement, les accords de branche, où finalement on a les accords d'entreprise qui s'imposent quasiment avant les accords de branche ?
Moi, je pense que oui. Il y a suffisamment de liberté dans le système aujourd'hui pour y arriver.
On va parler également maintenant d'éducation, d'école. Tiens, il y a une nouvelle qui vient de tomber, suppression de classe, et donc effet induit, suppression de postes également, ou redistribution des postes sur deux collèges de votre circonscription, deux classes à Victor-en-Artois, une classe à Marquion.
Je suis très en colère. On aurait fait cet entretien la semaine dernière, je vous dis, je suis très content. Aujourd'hui, je suis très en colère. Parce que jusque la semaine dernière, on avait une bonne relation avec l'académie. On était tenu au courant régulièrement de ce qui se faisait. Notre DAZN nous demandait notre avis sur certaines suppressions de classes, etc. Et là, on n'a pas été informé.
Vous allez rejoindre les 0,1% qui ne sont pas d'accord avec le ministre de l'Éducation ?
Non, je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas... De toute façon, on va poser des questions au ministre, on va poser des questions au DAZN, faire la part des choses entre ce qui est décision de l'administration et décision politique. Comme d'habitude, hein, il faut prendre un peu de recul. D'abord, il faut réagir fortement sur ces décisions parce que ça va complètement à l'encontre. Je fais le parallèle avec la mobilité. Et on a, dans la loi LOM, on a placer un tas de principes sur la mobilité en milieu rural, etc. Et ce qu'on voit, c'est que ça va dans le mauvais sens. Sur l'école et sur l'inclusion, parce que c'est surtout une question d'inclusion, on a posé tous les principes. Le président de la République est intervenu cette semaine sur le sujet du handicap. Et sur le terrain, ça ne correspond pas du tout à l'élan que l'on voit au niveau politique. Alors, faut creuser maintenant. Est-ce que ce sont des décisions administratives de l'administration locale ou nationale, ou est-ce que ça vient du ministre ? Moi, je veux faire qu'on soit beaucoup plus clair là-dessus. Je vais creuser. En tout cas, on va m'attendre là-dessus. Voilà.
C'est-à-dire que si ça vient pas du ministre, il faut que le ministre rappelle à l'ordre à ce moment-là ?
Oui, exactement. Et ça, je m'en rends compte maintenant.
Vous comprenez également que les enseignants, entre autres, ben à ce moment-là, la confiance, elle est cassée. Qu'on a quand même aujourd'hui des gens qui n'ont plus véritablement confiance face à cette majorité qui gouverne, parce que de temps en temps, on apprend des choses comme ça et on a l'impression que là, on est sur l'éducation. Ça se passe dans d'autres domaines. C'est compliqué aujourd'hui que de faire comprendre et que de se dire non, l'édition comprend sur les retraites, sur l'accès à la santé, sur l'éducation, vont dans le bon sens.
Ouais, moi, je comprends hein, qu'on puisse se braquer. Bon, d'abord, on est sur un quinquennat qui fait énormément de réformes. Et les réformes, c'est anxiogène. Quand on travaille sur la retraite, c'est évidemment anxiogène. Et c'est normal. Donc, automatiquement, les gens sont très crispés. Mais quand on réforme, évidemment, il y a des décisions politiques, mais il y a l'application de ces décisions à travers l'administration. Et moi, c'était un peu ma conviction avant d'être député, avec l'expérience que j'avais d'élu local, de conseiller départemental, etc. On a souvent un écart entre la volonté politique et la mise en application, parce qu'au milieu, il y a des services administratifs qui n'ont pas forcément compris l'esprit de la réforme, qui traduisent les choses de façon un petit peu... alignés ou qui continuent à travailler comme avant alors qu'on est en pleine réforme et qu'il faut changer de sa façon de travailler. Et ça, ça nous agace, élus, hein, parce qu'on ne voit pas l'effet sur le terrain de ce qu'on vient de décider, ou ça ne va pas assez vite. Et puis, évidemment, la population a du mal avec ça, c'est sûr.
Justement, si ces questions de pénibilité, je reviens sur le projet de réforme des retraites, n'est pas prise en compte dans le projet de loi qui maintenant va arriver. Vous allez voter pour, vous allez voter contre. Quelle sera votre attitude à ce moment-là, au moment du vote solennel ?
Je ne peux pas répondre ça comme ça. C'est une bonne question, mais d'abord, il va falloir qu'on... Je pense qu'on va avancer sur la pénibilité. C'est parti pour. C'était déjà dans le travail qu'avait fait Jean-Paul Delevoye. Donc, on va y arriver à la pénibilité. Moi, j'ai confiance là-dessus. Il y a deux sujets sur lesquels, qui sont chers au MoDem. Il y a la pénibilité, il y a la famille aussi. Ça, c'est un deuxième point, aussi des points, non seulement pour le premier, mais le deuxième enfant et le troisième enfant. Hein, ça, c'est important.
Vous évoquez le rythme des réformes et la complexité, finalement, à réformer ce pays. Il y a une grande réforme qui devrait également arriver. La PMA pour toutes, ça a été passé au Sénat, adopté. Hein, au Sénat, ça va revenir à l'Assemblée nationale. J'ai regardé un petit peu les votes sur ce projet de loi. Là, au Sénat, il y a eu 26 centristes qui ont voté contre sur 51. Voilà. Vous, vous placez comment sur ce projet de loi qui permet finalement aux femmes de pouvoir avoir des enfants si elles le désirent ?
Oui, moi je suis pour. Pour le vote centriste, et c'est comme sur le vote MoDem. Sur ces sujets-là, au sein du MoDem, à l'Assemblée nationale, on est toujours libre. C'est-à-dire que autant sur des sujets de réforme comme les retraites, qui sont des sujets plus de fonctionnement global de la société.
Structurant,
voilà, c'est le bon terme. Là, on fait groupe. Par contre, sur des sujets qui sont plus liés aux valeurs intimes, on laisse liberté de vote.
Enfin, ce sont des valeurs intimes, ce sont également des libertés individuelles au final.
Oui, d'accord, mais ce sont... Alors après, chacun a ses valeurs. Hein. Donc moi, je vous dis, sur la PMA, je suis très bien, moi, ça me va bien. Par contre, je respecte mes collègues qui n'ont pas encore fait ce chemin-là.
L'égalité, femmes-hommes, on avance finalement sur cette question.
Est-ce qu'on avance ? Moi, je dis que c'est par grande saccade. Quand on a fait... les élections législatives, le fait de régénérer beaucoup l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes finalement pour avoir égalité homme-femme au sein de l'Assemblée nationale. Il y a la pénalité que doivent payer les partis s'ils ne jouent pas le jeu, et puis c'est tout, puisqu'on n'est même pas obligé d'avoir un suppléant du sexe opposé. Il y a très peu de contraintes. Et quand on regarde, on arrive, je crois, à... un peu plus de 40% de femmes dans l'Assemblée nationale. Donc là, sans trop de contraintes, on a fait un grand pas en avant. Si on arrive au niveau local, on n'avance pas, moi, je trouve. On n'avance pas parce que quand on regarde les élections municipales, le nombre de femmes maires est trop peu important. Je suis assez pessimiste sur ce qui va se passer au mois de mars. Je ne vois pas une grande montée de candidates. Et après, eh ben on retrouve des comités de communes où il n'y a aucune femme en tant que vice-présidente.
Ça, c'est non. La représentation, donc, issue des élections, mais dans la vie ordinaire, l'égalité homme-femme, l'égalité salariale, c'est pour quand ? Comment on fait pour y arriver ?
Moi, je pense que la représentation des femmes au niveau des élections locales, c'est un symptôme. C'est le symptôme parce que ça montre qu'on n'y est pas encore. Je veux dire, si on avait une vraie égalité qui se traduit... L'égalité dans le salaire, c'est aussi un symptôme. Je veux dire, c'est dans l'esprit des gens que ça doit changer. C'est au niveau de chaque homme et de chaque femme aussi qu'on doit progresser. Tant qu'au plus profond de nous-mêmes, on n'aura pas ce sentiment d'égalité, de potentiel équivalent, de différence quand même, mais de potentiel équivalent pour tout le monde, ça n'avancera pas ou ça n'avance pas assez vite. Il faut un peu forcer de temps en temps. Enfin, moi, je n'ose plus le dire parce qu'on me l'a souvent reproché, parce que j'ai vécu 5 ans aux États-Unis où il y avait la discrimination positive, c'est-à-dire qu'on mettait des quotas partout, dans les entreprises, au niveau politique, etc. Moi, je trouve que les États-Unis ont beaucoup progressé grâce à ça, même si c'est contraignant. Quand je travaillais chez Hewlett-Packard, le conseil d'administration de Hewlett-Packard Monde, sur 10 membres, il y avait 7 femmes, dont la présidente. Aujourd'hui, on est encore loin de ça en France, quoi.
En arrivant ici, vous avez fait un diagnostic du dynamisme associatif sur la circonscription. Vous avez été surpris des résultats, vous attendiez, qu'est-ce qui est ressorti, les points forts, les points faibles?
Oui, j'ai été surpris parce que je pensais qu'on avait plus d'associations que ça. Alors c'est statistique, hein. Quand on regarde le nombre d'associations par rapport à la population au milieu rural, par rapport au milieu urbain, on est à la traîne. Alors que je me disais, dans chaque village, il y a au moins une association de comité des fêtes, une association de chasseurs, une association... Et finalement, on en est loin. C'est aussi un symptôme. C'est un symptôme de... On ne vit pas suffisamment ensemble, de ne plus avoir cette envie de faire société, de se prendre en main. Puisque une association, c'est d'abord ça, hein, on se met ensemble parce qu'on veut faire un truc ensemble, on n'est pas d'accord ensemble, et puis on veut changer les choses ensemble. C'est un symptôme, ça complète l'image du milieu rural, en tout cas ça clarifie les choses sur lesquelles on doit travailler.
C'est compliqué de ne pas être déconnecté entièrement de la réalité de cette circonscription quand on est amené à traiter des dossiers comme vous le faites, qui sont des dossiers où l'on engage le pays hein, vers une conversion écologique, vers autre chose, où là on parle de l'intérêt national, l'intérêt général national. Comment on fait pour garder le lien avec les gens qui vivent ici sur cette circonscription et qui finalement vous ont porté là-bas à aller les représenter? Est-ce que c'est véritablement le rôle du député que de représenter ce territoire?
Oui. Alors, c'est tout l'intérêt du bilan de mi-mandat que je viens de faire, de mesurer combien mon travail à l'Assemblée est connecté au territoire et comment j'arrive à alimenter mon travail à l'Assemblée grâce à mes connexions au territoire. Alors, 2 ans et demi, ça va vite, mais on se rend compte aussi quand même qu'on a fait beaucoup de choses. Et ce que je retiens de ça, c'est qu'il faut des temps. L'organisation de mon temps n'est pas uniforme sur les 2 ans et demi. C'est-à-dire que j'ai, à certains moments, passé plus de temps à l'Assemblée nationale parce que j'étais sur un sujet comme la transition énergétique où il fallait que je fasse beaucoup d'auditions, etc. Là, le sujet est terminé. Je reviens beaucoup plus sur le terrain, avec des objectifs sur le terrain, des associations à aller voir, des entreprises à aller voir, etc. Et donc, je me recharge pendant un certain temps pour... Je ne sais pas quoi encore, mais peut-être dans 6 mois, dans 1 an, me refocaliser au niveau national, riche de ce que j'aurais appris.
Ça suffira les 2 ans et demi restants pour ce que vous avez envie encore de faire? Autrement dit, est-ce que voilà, ce premier mandat vous donne envie déjà d'un second?
Oui, ça ne suffira pas. Et franchement, Alors, mon envie varie suivant les mois, pour être très franc. Parfois, c'est difficile et je me dis, mais est-ce que physiquement, je vais tenir le coup? C'est plutôt ça, ma question. C'est est-ce que physiquement et moralement, je tiens le coup? Et puis, à d'autres moments, je me dis, c'est formidable ce que les gens me donnent, c'est formidable la relation que j'ai avec les gens sur le terrain, et ça me décuple mes envies de parler du territoire, de faire vivre le territoire, de bien aller expliquer ce que c'est que la ruralité à nos collègues parisiens. Et c'est là le fond de mon engagement, finalement. C'est faire ce lien, expliquer qui on est dans la ruralité, parce qu'on est vraiment négligé ou pas entendu. On est une vraie richesse. On a encore beaucoup de savoir-vivre ensemble dans la ruralité qu'on n'a pas forcément ailleurs. En tout cas, dans la ruralité du Pas-de-Calais, on l'a.
Entretien avec Bruno Duverger, député MoDem de la première circonscription du Pas-de-Calais, à l'occasion de son bilan de mi-mandat, enregistrement réalisé le jeudi 13 février à la permanence du député. La puce à l'oreille, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.
La puce à l'oreille,
c'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the world. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio-Scape 107.